Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 34. Qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? On a expliqué plusieurs points très importants. Notamment, on a expliqué que les Avot, les patriarches, ils sont Merkava. S'arrêter longuement la semaine dernière, très longuement, sur la notion de Merkava. C'est quoi un char? Un char, c'est une personne qui a une telle soumission à Kadosh Baruch Hu, qui fait ce que Dieu demande, sans même qu'il y ait une guerre. Il n'y a pas de guerre. Il fait automatiquement ce que Kadosh Baruch Hu demande. Ça, c'est, et d'ailleurs, les patriarches, dans le Zohar, ils sont comparés au Merkava. On avait donné l'exemple la semaine dernière, on dit quand je prends, on avait eu un Jackie, hein, qu'est-ce qu'on avait dit?
La voiture.
Je prends le volant, je tourne à droite.
Il va à droite.
Il tourne à droite. Il n'y a pas, peut-être il va à la droite, peut-être il va à la gauche. Il n'y a pas de volonté propre de la colonne de direction. Ça tourne, c'est tout. De la même façon, les patriarches, ils ont une telle abnégation à Kadosh Baruch Hu, que toute leur vie, sans arrêt, ils sont constamment, battels, annulés à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, on a expliqué longuement. On avait donné aussi l'exemple du chassid qui avait dit que j'espère que spirituellement ça aille comme matériellement, enfin, etc., etc. Ok. Maintenant, après les patriarches, qui on a eu? On a eu les prophètes. Les prophètes, eux aussi, d'une certaine façon, ils avaient ce niveau. Ils avaient ce niveau d'être capables d'avoir une telle abnégation à Kadosh Baruch Hu, au point que la Shrina parlait de leur gorge. Le plus grand prophète qu'on ait connu, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, carrément, des fois, c'est même pas Dieu qui parlait. C'est lui qui parlait. Et il disait, je vous donnerai la pluie, je vous ferai ci, plusieurs fois dans la Torah. Bon, la fois la plus connue, c'est ce qu'on dit dans le schéma, dans la deuxième partie du schéma. Mais c'est très fréquent dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il parle, sans que Dieu lui a parlé, et il dit, je vous ferai, je vous donnerai. Ça veut dire que, tellement, il était annulé à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu parlait en lui. Shrina medaberet mitorgon. Alors, on avait terminé sur ça la semaine dernière. On avait dit que ça s'est pas arrêté qu'aux prophètes. On a eu les patriarches, les prophètes. Après les prophètes, on a les tzadikim. Et chez les tzadikim, un des plus grands tzadikim qu'on ait connu dans l'histoire, c'est qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et rappelez-vous ce qu'avait dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait dit la chose suivante. Il avait dit que, enfin, c'est le Zohar qui avait dit, Man pene Adon Hashem, qui est la face de Dieu? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On avait dit, mais comment on peut dire juste comme ça? C'est très grave de parler comme ça. Et justement, on avait expliqué que c'est des tzadikim qui avaient une telle abnégation à Kadosh Baruch Hu, qu'on pouvait dire que le tzadik, c'est Dieu. Attends, c'est une image, bien sûr, hein. Pas Chas V'Shalom qu'on est en train d'aduler un tzadik comme à Kadosh Baruch Hu. Pas du tout. Ça veut dire qu'il a une telle abnégation à Kadosh Baruch Hu, que quand on voit le tzadik, on dit que c'est comme si c'était à Kadosh Baruch Hu. On avait ramené aussi, enfin, une histoire que raconte le Midrash, qu'une fois, il y a eu un débat entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. C'est quoi le débat? Enfin, c'est un débat indirect. Akadosh Baruch Hu envoie un ange pour aller tuer les Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il envoie Aaron, son frère, pour aller stopper l'ange. Donc, on avait terminé dessus, qu'il y avait, à ce moment-là, il y a l'ange qui dit à Aaron, il lui dit, mais laisse-moi faire, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et qu'est-ce que lui répond Aaron? Il lui dit, mais moi, c'est Moïse qui m'a envoyé. Alors, qu'est-ce que lui répond l'ange? L'ange, il lui dit, mais attends, toi, tu viens de la part de Moïse. Moi, je viens de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, il lui dit, oui, mais ce que Moïse dit, c'est que c'est comme si c'est Dieu qui l'avait dit. Et du coup, l'histoire s'arrête là. C'est-à-dire, du coup, l'ange a dit, bon, bah, d'accord, dans ce cas-là, j'obtempère. C'est-à-dire que l'ange a entendu un ordre de Dieu, mais Aaron, qui vient lui donner un ordre de nom de Moshe. Si Moshe il a dit, c'est comme si que Hachem l'a dit. Pour nous montrer que on a eu ça chez les tzadikim, on a eu ça au niveau donc on a eu ça à plusieurs niveaux. On a eu ça chez les tzadikim, on a eu ça au niveau des prophètes et on a eu ça au niveau des tzadikim qui sont à un tel niveau qu'ils ont une abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un niveau de personnes qui sont on peut dire qu'ils ont intégré à 100% l'annulation avec Kadosh Baruch Hu. Sauf qu'Abraham, il a posé une question la semaine dernière, on s'arrêtait dessus. Il a dit, mais tout ça c'est bien beau, mais ça c'est les hommes d'exception. Et des gens comme nous, qui ne sommes pas de ce niveau-là. On n'est pas de ce niveau-là, nous. Qu'est-ce qu'on raconte des histoires abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que nous, on peut être à un niveau comme ça? Est-ce que nous, on peut prétendre être à un niveau comme ça? Comment on peut dire des choses comme ça? Alors, ce qu'on va expliquer dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'on m'en avait promis, c'est que non seulement c'est possible, mais en plus, on l'a déjà fait une fois. Alors certes, ça n'a pas tenu, mais si on l'a déjà fait une fois, on peut le refaire. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'homme d'exception. C'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Être annulé à Kadosh Baruch Hu au point que on fait machinalement ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose que, instinctivement ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose qu'on a déjà été à ce niveau-là. Comme on va voir tout de suite. Oumé Einze. Donc on est au chapitre 34, Oumé Einze. Je sais pas, au début du chapitre 34, Michael va nous rappeler où on est. Page 101. Voilà, Hazak.
Ah oui, voilà.
Deuxième.
Mais Enzé. Passez le. Vas-y, s'il vous plaît.
Merci.
Zahou
Israël.
C'est bon, Abraham, on va répondre à ta question.
C'est toi qui
pose
la question.
T'as dit, mais. T'as pas dit le mot homme d'exception, c'est mon mot, ça. Ah. Mais t'as dit.
L'idée y était, quoi.
Jamais on sera comme eux. Si mes souvenirs sont bons. Ok, en tout cas, la question est là. Mais Heinz est un niveau similaire à cela. Au patriarche, au prophète, au tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai. Un niveau dans lequel il y a une abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu, au point que je fais instinctivement les mitzvot. On avait donné un exemple la semaine dernière, je pense à un exemple qu'on va retrouver aussi aujourd'hui. Par exemple, je rentre dans une pièce, j'ai soif. Il y a une bouteille d'eau qui est posée sur la table. Qu'est-ce que je fais instinctivement? J'ai besoin de réfléchir. Ah, puisque j'ai soif, ah, peut-être je vais boire, peut-être je vais pas boire. Il y a une bouteille, peut-être je me sers, peut-être je me sers pas. Est-ce qu'il y a besoin de toutes ces réflexions? Qu'est-ce qui se passe? J'ai soif, je me sers, je me vois, c'est fini. Pourquoi? Oui, voilà. Pourquoi? Parce que c'est un instinct. C'est instinctif chez moi. Que j'ai soif, je bois. Ben, imaginez que les prophètes, ils sont à ce niveau-là. Prophètes, patriarches, etc. Faire une mitzvah, c'est un instinct pour eux. Ils ne peuvent pas supporter le contraire. Alors, on a dit qu'on a eu tous ce niveau-là.
Mais nous aussi, il y a quelques trucs qui sont comme ça.
C'est vrai, mais sauf qu'on n'est pas comme ça sur toute la ligne.
Pas tout, oui, bien sûr.
C'est vrai.
Il y a une partie qui est comme ça.
Oui, monsieur Benita, si je peux me permettre, il faut faire la différence entre routine et instinct. La nuance est très fine. Ça veut dire qu'on peut faire les choses par routine, mais on n'y est pas. Alors que d'un autre côté, les patriarches, c'est pas une routine, c'est un instinct. Ça veut dire qu'ils l'ont intégré à 100%. C'est beaucoup plus fort.
Pourtant, le Rambam, il est possède dans certaines mitzvot.
Vous voyez ce que je veux dire? Attends, juste, je veux juste m'assurer que j'ai répondu, qu'il a compris la réponse.
Le résultat, c'est de le faire, peu importe.
Non. Ça, on part routine. D'accord. Bon, voilà. Là, on parle d'un niveau. On parle d'un niveau. Tellement on l'ingère, au point qu'elle est en nous.
Oui, fèches,
oui, évidemment.
Ça veut dire que lorsque je vais manger, lorsque je ne veux pas manger un morceau de cochon, il faut que je me dise j'ai très envie de le manger. Donc c'est pas instinctivement je veux le manger, c'est qu'est-ce que je peux faire? Dieu ne veut pas.
C'est vrai. Mais les patriarches sont arrivés à un niveau qu'ils n'ont plus besoin de ça.
Donc on est mieux que.
Sur ça, oui. Ok. Mais Heinz est un niveau similaire à cela. On va prendre les mots maintenant. On va accélérer un petit peu. Zahou Israël, Bemama Darsinaï. Un niveau similaire à ça, les Bnei Israël ont mérité, Bema Ahmad Arsinaï, à l'événement, et même, je dirais même l'avènement, Arsinaï, du Arsinaï, quand on a reçu la Torah. Vous savez que lorsqu'on est sorti d'Égypte, puisqu'on parle maintenant de la sortie d'Égypte, Pessah, pourquoi on est sorti d'Égypte? C'est quoi le but?
La Torah.
Il a annoncé clairement, déjà depuis le début du programme, quand il a fait la promo du programme dans la Parasha Shemot, avant même que Moïse aille nous libérer. Dieu lui a dit, quand il a vu le buisson ardent sur le mont Sinaï, Dieu lui a dit, tu feras sortir ce peuple d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Il l'a dit clairement, c'était annoncé déjà. Bon, donc le but c'est de recevoir la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah? Quand on a reçu la Torah, pendant les quelques heures, ou je dirais peut-être même quelques minutes, pendant lesquelles on a reçu la Torah, à ce moment-là, on a eu une abnégation absolue à Kadosh Baruch Hu. Au point que notre corps faisait naturellement ce que Dieu voulait. Rag seulement.
Ça passe tout de suite.
Voilà, rag seulement. Chez Lo Yachlou Lisbol. On n'a pas pu le supporter. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que lorsqu'on a reçu les 10 commandements, les deux premiers commandements, on écoutait le commandement et notre Neshama partait. Et Dieu nous la refaisait descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vécu un dévoilement très puissant, mais notre corps n'était pas prêt pour le ressentir, cet événement. Si vous voulez, on a mis directement du 220 volts sur quelque chose qui ne peut pas le supporter. Du coup, il explose. Alors, le compteur, il saute, tu le rallumes, pas de problème. Dieu, il a fait ça la première, la deuxième, donc le premier et le deuxième commandement. Après, comme Moshe Rabbeinu, il raconte dans la paracha Vaetranan, il dit, arrivé au troisième commandement, les enfants d'Israël, ils ont dit à Moshe, ils ont dit, écoute, parle-toi avec Dieu directement, tu nous répéteras, on te fait confiance. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que les 8 commandements, les 8 derniers commandements, on les a pas entendus de Moshe Rabbeinu.
De Dieu.
On les a entendus de Moshe Rabbeinu. Avec tous les autres commandements. D'ailleurs, c'est pour cela, Torah, tziva lanu, Moshe. Torah, c'est la valeur numérique de combien? 611. Torah, tav, 400. Vav, 6. Resh, 200. He, 5. 611. Pourtant, il y a quand même Mitzvot, 613. Parce qu'on dit Torah, tziva lanu, Moshe. Moshe Rabbeinu nous a ordonné 611. Parce qu'il y a deux qu'on a entendus en direct. Et qu'on a demandé à Hachem, on lui a dit, ça stop, arrête. À Moshe, on lui a dit, écoute, déroule-toi avec Dieu. Et là, bon, Moshe Rabbeinu a dit, dans ce cas-là, je vais parler moi avec Dieu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était d'un niveau que son corps était capable de gérer cette grande énergie. Nous, on était incapables. Bon, on l'a vécu, ça. Mais comme notre corps n'était pas prêt à vivre ce niveau-là, que mon corps fait automatiquement ce que Dieu veut, donc notre corps ne suivait pas. Quand on est arrivé à un événement comme ça, que ton corps, il dit, t'as un dévoilement qui te dit à ton corps, tu dis, fais ce que je te demande sans même réfléchir, le corps, il dit, bon, mais je suis pas, je m'efface. Et c'est pour ça qu'on est mort. On est mort deux fois. On mourait, comme ça, c'est écrit clairement. C'est écrit que leur neshama quittait, c'est-à-dire qu'ils mouraient, et Dieu leur a ramené la neshama. Donc, ça veut dire que, finalement, ce niveau-là, on est déjà passé par ce niveau-là, mais notre corps n'était pas prêt. Notre corps n'était pas prêt, on n'arrêtait pas de mourir. Rak, Shelo Yachlou Lisbol.
Même les grands, comme Moshe Rabbeinu ou même Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dû, entre guillemets, faire quelque chose qui n'était pas naturel. Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme.
Oui, c'est sûr. Ça.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est enfermé
il y a un travail.
12 ans dans une grotte.
Il y a un travail.
En tant qu'homme sur cette terre, tu ne peux pas atteindre leur...
Même les prophètes. Un prophète.
Il y a un travail.
Il fait un effort pour se défaire de la matérialité. Vous savez qu'il y avait des écoles de prophètes à l'époque. Je suis sérieux. Hein. Oui, il y avait des écoles de prophètes.
C'est pas
Harry Potter, non, sérieusement. C'est qu'il y avait des écoles où on apprenait aux gens à se défaire de la matérialité. Et Maïmoné, il explique que quand les personnes se défait de la matérialité, de France, ouais. Automatiquement, ils captent des signaux. Il y a des signaux partout, Dieu nous parle. Mais nous, on n'entend pas parce qu'on est tellement grossier matériel qu'on n'entend pas. Quand on apprend à se défaire de la matérialité, à rentrer dans un état second, notre corps ne forme plus un frein au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, comme on n'est pas à ce niveau-là, même quand Dieu nous force, il dit, tiens, je vais te mettre le dévoilement, on explose, on n'a pas tenu. Alors que, les patriarches, les prophètes, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., ils sont à un niveau que leur corps ne forme pas un frein à ce dévoilement. Donc, en tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas quelque chose qui est que pour les tzadikim. On est déjà arrivé à ce niveau-là, mais malheureusement, on n'était pas prêt. Et on est en train de se préparer pour que lorsque Mashiach arrivera, notre corps pourra continuer. Chez Inyan, Kumama Rabotenu Zichronan Luracha, comme la Gemara nous dit, chez Alkol Dibur Parcha Nishmatam, que sur chaque parole des 10 commandements, leur Neshama s'envolait. Chez Inyan Bitul Mtsiut Anal, ça veut dire que ils s'annulaient, ils n'arrivaient pas à tenir. Leur corps ne suivait pas. Et donc, Akadosh Baruch Hu les a fait revivre à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, depuis le temps de la Torah, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, on a fait beaucoup, beaucoup de mitzvot. Et on a raffiné la matière. Au point que lorsque Akadosh Baruch Hu décidera que le temps est arrivé, que ma chère va venir, là, à ce moment-là, notre corps ne formera plus un frein à l'avènement messianique, il ne formera plus un frein au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le grand débat qu'il y a entre Maïmonide et Nachmanide. Tu as parlé tout à l'heure de Maïmonide. C'est un grand débat, on en a parlé récemment au cours de Mishnah, du lundi matin. Quelle est la finalité de ce monde? Est-ce que la finalité de ce monde sera dans le corps, c'est-à-dire dans une vie avec le corps, ou est-ce qu'au contraire, au bout d'un certain temps, on devra quitter ce corps? Lorsque Mashiach arrivera, Maïmonide pense que la finalité de ce monde est en dehors des corps, c'est-à-dire qu'il faudra quitter le corps. Alors que Nachmanide pense, et aujourd'hui tous les penseurs juifs pratiquement s'accordent comme Nachmanide, ils disent non. Ils disent que la finalité de ce monde sera dans ce corps. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent que le corps ne formera plus un frein. Aujourd'hui, le corps bloque, mais comme Machiav viendra, le corps ne bloquera plus.
Oui, mais il a formé un frein au moment du don de la Torah.
Parce qu'on n'était pas prêt. La différence entre le don de la Torah et aujourd'hui, c'est qu'au don de la Torah, on était un peuple d'esclaves qui venait de sortir, qui s'est préparé, bon, pas sommairement, mais qui s'est préparé rapidement pendant 49 jours. Ils n'étaient pas prêts.
Une autre fois, vous avez dit que quand on est arrivé à ce moment-là, ils étaient complètement...
Oui, ils étaient purs, mais ils n'ont pas... Ils étaient purs, mais leur corps n'était pas prêt pour ça. Ils étaient purs, mais leur corps n'était pas prêt pour gérer un dévoilement tellement fort.
49 jours, c'était quand même beaucoup.
C'était très long, certainement. Mais c'est pas assez. On ne peut pas comparer ça à des millénaires de travail que nous, on fait. Nous, c'est des millénaires de travail qu'on fait. Progressivement, on s'approche. Progressivement. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous prépare un Mashiach. Lorsque Mashiach arrivera... Là, ce sera pour de bon. Ça veut dire qu'en vérité, si on comprend bien, hein, Matan Torah, le don de la Torah, c'était une sorte de Mashiach. C'est une sorte de Mashiach qui est arrivé, mais le monde n'était pas prêt. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est comme si Mashiach arrive, mais le monde n'est pas prêt. Donc du coup, on explose. Bon, Dieu dit, hop, reset. On redémarre. On redémarre la machine, encore une fois. Il dit, bon, je vous envoie Mashiach. Donc le deuxième commandement, pac, on explose. Dieu dit, bon, on s'arrête là même pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va attendre Mashiach.
Pourquoi tu veux dire que... Pourquoi il peut se contenter de simplement essayer, puisqu'il crée en permanence. Il n'a pas besoin de savoir si.
Non, c'est pas qu'il
essaye. Si le premier commandement, ils vont exploser. Il sait que ça va exploser.
C'est pas qu'il essaye. C'est qu'il voulait nous montrer qu'on peut y arriver et que c'est notre corps qui forme un frein, mais que la neshama de chacun de nous peut y arriver. La preuve, on y est arrivé. Seulement, notre corps ne suivait pas. Ça, on comprend.
Et depuis,
ça veut dire, ne crois pas que c'est quelque chose qui est que pour Rabbi Shimon Bar Yochai. La force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que même en exil, il arrive à le faire. D'ailleurs, vous savez, il y a un témoignage extraordinaire de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Il y a une neshama particulière.
Oui.
Il
y a un témoignage extraordinaire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que pour moi, lui, il a vécu la génération juste après la destruction du temple. Et il dit comme ça, dans le Zohar, il dit, pour moi, le temple n'a jamais été détruit. Il dit clairement, plusieurs fois dans le Zohar, pour moi, le temple n'a jamais été détruit. On pourrait pas dire ça.
Physiquement peut-être, mais pas...
Ça veut dire qu'il est dans une autre dimension. Il est dans une autre dimension. Il est dans une dimension dans laquelle il n'y a pas de frein, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que même le matériel ne forme pas de frein spirituel. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est très très loin à ce niveau-là. Mais en tout cas, notre Neshama peut y arriver. C'est notre corps qui est pas prêt.
Peut-être que lui-même est un temple.
C'est...
Lui-même est un temple, il considère que lui-même est un temple.
Non, c'est qu'il est à un niveau dans lequel il ne voit pas le temple comme nous. Il ne voit pas le côté matériel du temple, il voit le côté spirituel. Et le côté spirituel du temple est toujours là. Vous connaissez l'histoire? On raconte qu'une fois, il y a un rabbi, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Rabbi Nachman de Rimanov, qui habitait à Tzfat. Et on raconte qu'une fois, on est venu lui annoncer... Non, Rabbi Nachman de Horodok, voilà. On est venu lui annoncer, quand il était donc en Israël, on lui a dit, il y a une rumeur qui dit que Mashiach est là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la fenêtre de sa chambre, il a senti, il a dit non, ça sent pas l'odeur de Mashiach. Parce que c'est écrit que Mashiach, il y aura une odeur spéciale qu'avec Mashiach, et c'est l'équipe qui va le ressentir. Alors une fois le rabbi l'a posé la question, il a dit mais pourquoi il a eu besoin d'ouvrir sa fenêtre? L'odeur de Mashiach, il aurait pu la sentir directement dans sa chambre. Pourquoi il a besoin d'ouvrir la fenêtre pour sentir dehors, pour voir est-ce que dehors ça sent ou ça sent pas? Et là on comprend hein, que dans sa chambre il y avait déjà l'odeur de Mashiach.
Donc il voulait voir si c'était le cas dehors.
C'était pas la même dehors.
Et là, bon, mais c'était pas la même dehors. Donc là, il sent. Quand il sent, il comprend qu'il y a un problème. Ok. Vas-y, pardon.
Si ce que t'as dit pour le Rambam.
Oui.
Que la finalité, c'est pas le corps. Alors, c'est quoi Triat HaMetim?
Non, lui, il dit qu'il y aura la résurrection des morts, mais qu'après, on finira par se défaire des corps.
Mais d'après. Ça sert à quoi la résurrection des morts?
Non, c'est pour qu'on revienne sur Terre, pour qu'on vienne à la case départ. Et après, progressivement, on va volontairement quitter notre corps.
On va mourir.
Pas mourir. C'est volontairement on quittera notre corps. Ça, c'est la vie de Maïmonide. Il dit que volontairement, il y aura une démarche de progressivement de quitter son corps.
Tout le monde est pas d'accord.
Mais la majorité ne sont pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, on comprend bien. Parce que puisqu'on a expliqué quel était le problème au don de la Torah, c'était pas l'âme le problème. Le problème, c'était le corps. Ouais. L'âme, elle était prête. La preuve, elle a eu le dévoilement. Mais le corps n'était pas pris, il a explosé. Donc, le problème, c'est le corps. Donc, quand ma chair va arriver, c'est pas l'âme qu'il faut réparer. c'est le corps qu'il faut réparer. Donc là, si on va arriver à un niveau dans lequel le corps, effectivement, ne vend plus de frein, là, on pourra dire que on va pas refaire la même gaffe, en tout cas, on va pas repasser par le même problème qu'on est passé
dans le temps. On peut considérer à partir du moment où il est venu, ça veut dire que tout est réparé.
Non, justement, c'est pas réparé. C'est pas réparé.
Le corps et l'âme.
Non.
Alors il va en mesure de.
Lorsque Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach, ça veut dire qu'il estime qu'on est en mesure, notre corps est en mesure
de supporter le
voltage. Voilà. C'est ça. Après, ça prendra certainement un temps d'adaptation. Vous savez que Mashiach, quand on lit le Rambam, on comprend que Mashiach, c'est un processus. Et d'ailleurs, on est déjà dans le processus. Mashiach est déjà en train d'arriver. Il est déjà en train d'arriver.
Il y a des gens qui disent qu'il est là.
Je dirais pas qu'il est là, mais il est en train d'arriver, c'est sûr ça. Parce que c'est un processus, ma chère. Il est évident que le monde est en train de changer, ça c'est clair ça. Il y a des choses qui se passent. Non mais le monde bouge très très vite. Il est évident, ça c'est quelque chose de très très, très clair.
Je sais pas s'il bouge plus vite. Toi tu as l'impression qu'il bouge vite parce que tu as une information qui circule.
Pas du tout,
plus vite,
regarde, je donne un exemple. Quand on fait les cours d'histoire, on voit qu'à l'époque, en un siècle, il se passait très peu de choses. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du monde, je te parle, même pas du progrès, dans le monde, les mouvements qui se passaient en un siècle sont même pas l'équivalent de ce qui se passe aujourd'hui en, je sais pas, en 5 ans.
Mais si tu parles des mouvements, le 20e siècle a été une horreur.
Bien sûr, quand les choses avancent vite,
ça n'a jamais été pire.
Exactement. Quand les choses avancent vite, ça peut mal avancer vite ou ça peut bien avancer vite. Mais ce qui est clair, c'est que les choses avancent très très vite. Ça avance très très vite.
Oui, mais d'accord, mais pas forcément très, très bien. Avec
pas forcément bien.
Mais avec le, c'est le développement d'information qui
non, mais 90% des.
Non, même aujourd'hui, on a accès.
Les découvertes sont faites sur les.
C'est pas que les découvertes. Siècles. Je te parle les mouvements dans
les
le
avancées,
monde.
Les avancées.
Les mouvements, les choses qui changent, l'actualité, ça change, même dans le même pays. C'est-à-dire qu'avant, l'actualité d'aujourd'hui, c'était encore l'actualité pendant un mois. Pendant un mois, on en parle encore. La question de quoi on parlait il y a une semaine aux médias. Il y a les affaires des Panama Papers, là, elle a tenu une semaine. Ça fait un vrai buzz. Et ça a été alimenté par les journalistes, c'est pas comme ça. Tous les jours, ils rajoutent une petite information, etc. Parce que sinon. Hein, c'est fini. Parce que.
C'est le maximum.
Parce que, et je vais vous dire plus que ça, s'ils avaient tout divulgué dès le premier jour,
c'est pas possible.
Ça aurait tenu 2-3 jours, c'est tout. Parce que ça tient pas, il y a tellement de choses qui se passent que les nouvelles sont écrasées par les autres. Les choses avancent très vite aujourd'hui, ça c'est clair. Et on voit que le monde avance. Il avance où? J'en sais rien, mais il avance. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Lorsqu'il nous donne la Torah, visiblement, on n'est pas prêt. C'est pour ça que notre corps ne tient pas, on s'en va. Bon, peut-être notre Neshama était prête, mais le corps n'était pas prêt. Malheureusement, alors Dieu dit, bon, dans ce cas-là, on va passer par Moïse. On passe par Moïse, très bien. Le problème, c'est que Moïse, il a un jour de retard. En tout cas, on croyait qu'il avait un jour de retard, et du coup... Qu'est-ce qui se passe? Tac, Vaudor. Ça veut dire que le corps était vraiment pas prêt. Mais pas du tout, quoi. C'est pas seulement qu'il tient pas le voltage, le haut voltage, c'est qu'il est à côté de la plaque.
Comment c'est possible? Du jour au lendemain, tu étais blanc, tu passes noir?
Parce qu'ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts. Tant qu'ils avaient leur chef avec eux.
Ils étaient pas prêts en profondeur.
Ils étaient pas prêts en profondeur, ils étaient pas prêts.
C'est de la folie.
C'est insane, hein, c'est bon.
Mais c'est de la folie, l'histoire. Ça veut dire que tu es un blanc un jour et le lendemain matin tu es noir.
Je vais te donner un exemple. Imagine-toi un enfant qui est avec son père. Son père le prend dans la main. On l'amène dans un endroit. Et le père dit attention, tu vas bien te comporter, hein. Bah, il se comporte bien comme il faut. Parfaitement. Irréprochable. D'accord? À un moment, le père, il se retourne, il va faire une petite course, il va à côté. C'est fini. Le fils d'enfant modèle, il va partir à enfant gaffeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais 5 minutes, il était très sage. Parce qu'en vérité, il a jamais été sage. Il était conditionné pour être sage. C'est la même chose. Les Bnei Israël, dès le départ, on tenait pas. Après, on a eu Moshe Arvenu qui était là, bon, qui essayait de tempérer, qui essayait de calmer. Mais on n'était pas prêts.
Mais là, tu vois le bon Dieu, tu l'entends. Comment?
Et alors?
C'est pas la même chose qu'un fils avec un père.
Ouais, mais ça répète très fort.
Ils sont pas prêts.
C'est pour ça que le Rabbi disait, une des dernières campagnes, si c'était même la dernière campagne du Rabbi, il disait, préparez-vous à la venue de Mashiach. Préparez-vous. Parce que, il dit, le Mashiach est prêt à arriver. C'est le mot du Rabbi, hein. Il dit aujourd'hui, Mashiach, ce qu'on devait réparer, on a réparé. Maintenant, ce qui manque, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à l'accueillir. Est-ce qu'on a intéressé à l'accueillir? Je sais pas. Est-ce que ça me change quelque chose que ma chère n'est pas arrivé hier?
T'as fait un bon couscous, ma femme, hein. Si tu veux, moi je peux lui faire.
Non, c'est pas ça, je te parle. Est-ce que ça me dérange qu'il n'est pas là?
Oui. On peut parler de motivation?
Est-ce qu'on est prêt à sa venue? Les Bnei Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à ce dévoilement. Lorsque mon cher Bnei est parti chercher la Torah, ils n'étaient pas prêts. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à ça? Il faut se travailler. Et la seule façon de se travailler, dit le Rabbi, c'est d'étudier des textes qui parlent de Mashiach. Et de commencer à s'imaginer. Non, bah, il faut se préparer mentalement. Il faut se préparer. Que ça peut arriver, etc. Et comme ça, quand il va arriver, on sera prêt.
On me donne un outil et je ne peux pas m'en servir. Non. Je ne suis pas prêt. Voilà. Pourquoi on m'a donné la Torah à ce moment-là?
Non, la Torah, c'est un très bon outil. Il a voulu nous montrer, si vous voulez, il a enlevé les protections. Après, il y a des protections, tu vois, il y a des protections électriques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de survoltage. Mais là, quand Dieu nous donnait les commandements, c'était sans protection. Pac, direct, la centrale. On n'a pas tenu. Moshé, il était là comme ça, égal à lui-même. Nous, on était incapables. Lorsque Moshé reviendra, le don de la Torah ne se reproduira pas. Parce que une seule fois dans l'histoire, il peut se produire le don de la Torah. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va ressentir ce qu'on n'a pas ressenti dans la Torah. On va tout en ressentant dans notre corps. Maintenant. Les Bnei Israël sont pas prêts, donc il faut un plan. Dieu, il voit bien qu'on n'est pas prêt. Il essaye une fois, il essaye deux fois, on n'est pas prêt. Et même Moïse y part, c'est la catastrophe. Donc il y a un problème. Donc, Dieu prépare un plan. Quel est le plan d'Akadosh Baruch Hu? Là, il faut voir le plan d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit que ça ne marche pas, Moshe Rabbeinu, il monte pour demander le pardon à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, dans ce cas-là, les enfants d'Israël vont me faire un Mishkan. C'est la première chose que Dieu dit. Ça veut dire que, quelle est la réparation de la faute du Vaudor et la réparation du problème qu'on n'est pas prêt? C'est le Mishkan. Ça veut dire que tout est dans le Mishkan, il faut qu'on développe maintenant. Dans le Mishkan, il y a le secret qui va nous apprendre comment rester dans la cité et en même temps décoller. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que on n'arrivait pas en même temps à rester sur terre et en même temps décoller. C'est pour ça que du coup, on a décollé. Qu'est-ce que Dieu fait? Tu dis, bon, vous êtes pas prêts, je vais vous donner la technique. Je vais vous donner la technique. C'est quoi la technique? C'est le Mishkan. Alors, c'est quoi le Mishkan? On va développer. La reine, c'est pour cela. Miyad, tout de suite après le don de la Torah, après la faute, etc. Tziva la asot lo Mishkan. Il a ordonné de lui construire un Mishkan. Alors, c'est un grand débat chez les décisionnaires et chez les commentateurs du Chumash, à savoir à quel moment Dieu a demandé qu'on le construise un Mishkan. Grand débat. Est-ce que Dieu a ordonné ça après la faute du Vaudor? Est-ce que Dieu a ordonné avant la faute du Vaudor, mais concrètement, on l'a fait que après la faute du Vaudor? Est-ce qu'il a ordonné avant la faute du Vaudor et qu'on a commencé à construire avant la faute du Vaudor? C'est un grand débat. En tout cas, ce qui est clair, c'est que même si on n'avait pas fait la faute du Vaudor, Dieu nous aurait donné quand même le Mishkan. Parce que le Mishkan est impératif. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan? Le Mishkan, ce qui se passe dans le Mishkan, ou beau, dans le Mishkan, il y avait Kodesh HaKodashim. Le Saint des Saints, les Ashraat Shrinato, pour permettre à la Shrina d'Akadosh Baruch Hu de résider, Sheu Gilou Yichudo Yitbarer Kemosh Yitber Lekaman, que le Saint des Saints, c'est le dévoilement de l'unicité d'Hachem qui se dévoile sur terre, comme on l'expliquera plus tard dans le chapitre 35. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Je vais dire comme ça. Le lieu le plus saint qu'on ait jamais connu et qu'on puisse jamais connaître dans l'histoire, c'est quoi? Kodesh à Kodashim. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints est un lieu dans lequel l'unicité d'Akadosh Baruch Hu éclaire sans aucune barrière et sans aucune protection. Là-bas, le monde ne dérange pas Akadosh Baruch Hu, le monde ne bloque pas. À tel point que même l'espace devient au-delà de l'espace. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué une fois avec le Aaron, que le Aaron, d'un côté, il prenait de la place et de l'autre côté, il prenait pas de place. Ça veut dire que... Non, je parle du Aaron.
Ah oui, d'après la...
Ça veut dire que le Aaron, il prenait une place, et d'un autre côté, quand on mesurait de là à là, on avait la même taille que d'ici à ici, et de là à là, la même taille que d'ici à ici. Et pourtant, donc je vais vous donner en mesure, c'est plus simple. La pièce faisait 5 mètres de largeur, dans le Mishkan. 5 mètres. Le Aaron faisait 2,50 mètres. D'accord? Donc, normalement, si je fais 2,50 mètres, je le mets au milieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, pas 2,50 mètres.
250.
Il faisait 250, oui, d'accord. Mais il faisait 1,20 mètres, il faisait 1,25 mètres. Donc, normalement, quand je compte 1,25 mètres sur 5 mètres, donc, il était pile au milieu. Il doit me rester combien de chaque côté? Vous comptez 5 mètres moins 1 mètre 20. 5 mètres, pardon, moins 1 mètre 25. Oui. Il reste combien?
375 par 2.
Donc ça fait combien?
175.
37,5.
Ça fait 117,5. OK? Donc on aurait dû avoir 117,5. 177,5 de chaque côté. Pourtant, non, on comptait de là à là, 2,50 m. De là à là, 2,50 m. Ça, 1,25 m. On commence.
Et pourtant, il avait une existence matérielle.
Tout ça, 5 mètres. Ça veut dire qu'il avait une existence matérielle, il prenait de la place sans en prendre. Comment c'est possible? C'est incompréhensible. Ça veut dire qu'on est dans un niveau dans lequel le corps, l'espace, le temps ne forment pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas une notion que ça prend de la place ou ça ne prend pas de la place. On est au-delà de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint des Saints est un lieu dans lequel Akadosh Baruch Hu se dévoile sans masque. Et c'est pour ça que le Saint des Saints est un lieu dangereux. C'est un lieu qu'on ne peut pas rentrer n'importe quand. Et on a appris il n'y a pas longtemps, on va apprendre aussi dans la parasha la semaine prochaine, que lorsque Nadav Aviou, enfin la semaine prochaine, celle qui va nous accompagner jusqu'à après Pessah, Nadav Aviou, ils sont rentrés dans le Saint des Saints sans protection, ils sont partis. Le jour de Kippour, quand tu t'es préparé, et que tu rentres après le mikvé, et que tu as tout le cal qui est avec toi, et que tu rentres pour quelques minutes, là, t'es protégé. Mais t'es protégé que pour quelques instants, sinon tu exploses. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà la solution. La solution, c'est qu'il faut construire un Bet HaMikdash, donc un Mishkan. Dans ce Mishkan, il y aura le Saint des Saints. Ça veut dire que ce qu'on a voulu obtenir pendant le premier commandement et le deuxième commandement, mais ça n'a pas marché, finalement, il va se passer dans le Bet HaMikdash, dans le Mishkan. Sauf que ça va se passer derrière le rideau. Et nous, on va juste participer autour de ça. Mais il est important de savoir que ça existe. Ça veut dire que il y a un endroit qui est au-delà du temps et de l'espace. D'ailleurs, vous savez qu'il y a même on va aller beaucoup plus loin que ça. Les louchot, les tables de la loi, sont aussi au-delà de l'espace, puisque elles étaient lisibles de côté. Enfin, il y avait des miracles fous dans les louchot. Et les louchot sont cachées. Aujourd'hui encore, elles existent. Parce qu'il y a un midrash qui dit que si les louchot cessaient d'exister, les tables de la loi, ne serait-ce qu'un seul instant, le monde ne tiendrait pas. Pourquoi? Très important. Parce que, étant donné que le but de ce monde-ci, c'est quoi? C'est qu'il dévoile la puissance d'Akadosh Baruch Hu sans masque, même si nous on n'y arrive pas, il faut qu'il y ait au moins un endroit sur la terre dans lequel c'est possible. Pour montrer qu'on a un échantillon. Parce que si, même dans un endroit il n'y a pas ça, dans ce cas-là le monde s'écroule. La seule raison d'être du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, bon, c'est vrai qu'ils n'y sont pas encore arrivés, mais il y a un endroit dans le monde qui est comme ça. Aujourd'hui c'est le Saint des Saints, c'est les louchot qui sont cachés en dessous. Donc puisque il y a ça déjà dans un endroit, quand ma chère va venir, on va faire qu'étendre ce niveau-là au monde entier. C'est dire à quel point c'est le but de la création du monde.
On ne part pas de rien.
Bien sûr. Il y a quelque chose. Toujours, il y a quelque chose. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est même autre que tu nous rencontres. Maintenant, ma chère n'est pas encore là. Concrètement, comment nous on fait pour ça? Comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Ma chère n'est pas là, on n'a même pas le Bet HaMikdash. Tu me racontes, tu me dis que le Bet HaMikdash est un équivalent du Saint des Saints. Mais concrètement, on n'a pas tout ça maintenant. Moi, je veux comprendre comment je peux arriver aujourd'hui à un niveau que la Torah et les mitzvot peuvent devenir instinctifs chez moi, pas seulement routiniers. C'est ça la question qu'on se pose. Et ça, la vérité, c'est une très grande question. Même si nous, on est déjà vieux et que bon, on ne sait pas si on va réussir, mais on aimerait que nos enfants arrivent à ça. J'aimerais éduquer mes enfants de façon à ce que Bezrat Hashem, c'est un instinct chez eux de faire les mitzvot. Comment tu peux y arriver? Qu'est-ce que je dois lui mettre dans son biberon? Qu'est-ce que je dois lui mettre dans son éducation pour arriver à ce niveau-là? On a la solution. La Gemara en parle. Ou Miché Harav.
Là-haut.
Pas beaucoup. Page 102. Ou Miché Harav, Beit HaMikdash. Depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, et que malheureusement le Saint des Saints, on ne l'a plus, il est caché. En lo le Akadosh Baruch Hu be'olamo, Akadosh Baruch Hu a dans son monde, Mishkan Machon le Shifto Yehudu Itbarech, et la Arbamot Shel Halacha. La Gemara Brachot nous dit ça, pour ceux qui viennent au cours du dimanche matin. On a étudié, ça fait quelques mois, la Gemara Brachot, page 8. La Gemara Brachot dit la belle chose suivante. Elle dit que depuis que Kadosh Baruch Hu a détruit le monde, le Bet HaMikdash, il n'a dans son monde que Arba Amot Shel Halacha. 4 coudées de Halacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le secret pour réussir à vivre les mitzvot instinctivement, notre mini Bet HaMikdash, le lieu dans lequel Dieu se trouve sans masque, sans rien, c'est quoi? enfin en tout cas au maximum de notre possible, c'est dans l'étude de la halakha. Alors il y a beaucoup d'études, on peut étudier beaucoup de choses.
Quoi étudier le Tania alors.
Alors justement, j'y arrive.
On devrait étudier que la halakha du matin jusqu'au soir.
Attends, j'y arrive. Le Tania t'explique comment étudier la halakha. Alors, donc, Arba Amot Shel Halakha. Pourquoi halakha? Pourquoi on parle de halakha ici? Pourtant, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a la mitzvot de la tzedaka, il y a la mitzvot de la kashrut, la mitzvot de la pureté familiale, il y a les tefillin, il y a le shabbat, il y a beaucoup de mitzvot. Non. Arba Amot Shel Halakha. Le monde tient aujourd'hui sur l'étude de la Torah, et en particulier, quelle étude? L'étude de la halakha. D'accord? Alors, pourquoi la halakha? La Gemara là-bas, elle donne une allusion. Elle dit parce que il est écrit va avayer va Hashem imo, ça veut dire que halakha kemoto. Ça veut dire comme ça. Hein? Ça veut dire que quand on étudie la Torah, il peut y avoir plusieurs avis. Bon, il y a un avis qui dit comme ça, un avis qui dit comme ça, un avis qui dit comme ça. Concrètement, on ne sait pas lequel a, enfin tous ont raison, c'est sûr, mais lequel représente ce que Dieu veut de moi maintenant. Dieu attend de moi maintenant. Je ne sais pas. Quand tu étudies la Gemara, tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi maintenant. Parce que la Gemara te donne, sur une question donnée, elle te donne 10 avis. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de moi? J'en sais rien. Ça veut dire, tout ce qu'ils disent, c'est clair, c'est vrai, mais c'est ce qu'on appelle du Elohim. Ça veut dire que Dieu est caché. On ne sait pas exactement ce qu'il veut. On sait que chacun a quelque part raison, mais je ne sais pas ce qu'il attend de moi maintenant. Alors que quand tu étudies la halakha, il n'y a pas 10 avis. Quand tu étudies la halakha, il y a un avis. On te dit, voilà ce que tu dois faire maintenant.
C'est toujours un aour.
C'est toujours un aour. Surtout quand c'est des cas dans lesquels il y a un doute. On va aller voir un Rav. Le Rav va donner un psak à la Rav. C'est quoi psak? Il va trancher. Une décision. Dans une décision, il n'y a pas, écoute, peut-être tu peux faire comme ci, peut-être tu peux faire comme ça. C'est pas un psak, ça. C'est un rigolo, ça. Un psak, c'est un Rav qui a les épaules, qui va trancher, qui va dire, il faut faire comme ça. Et en d'autres termes, c'est ça ce que Dieu veut.
Et si un autre me donne le contraire, qu'est-ce que je fais?
Une fois que j'ai décidé que je suis ce Rav, pour moi, la parole de Dieu passe par ce rave.
C'est sourd d'aller voir.
Ça veut dire que pour moi, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pour moi, ce que ce rave est en train de dire, c'est le saint des saints. C'est pas le saint, c'est le saint des saints. Psak. Et c'est sur ça qu'on tient aujourd'hui. Sur quoi on tient aujourd'hui? On tient aujourd'hui avec l'étude de la halakha. Pourquoi? Parce que dans l'étude de la halakha, on a la sagesse divine qui est développée, mais plus que la sagesse, nous avons la volonté divine qui est développée. Quand tu étudies la Gemara, tu ne sais pas ce qu'est la volonté divine. Tu as 10 avis. Qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant? Je ne sais pas.
Mais c'est ça qui est beau en même temps.
Bien sûr c'est beau. On n'est pas en train de dire qu'on va arrêter d'étudier la Gemara. Mais ce que je veux dire, d'ailleurs, le Beth Amikdash n'était pas composé que du Saint des Saints. Il y a le Saint des Saints, il y a d'autres pièces. Et le Saint des Saints n'était même pas 1% du Beth Amikdash. Mais...
Non, dans le cœur.
Voilà, c'est le cœur. Le cœur d'un juif, c'est la halakha. Le cœur d'un juif, c'est le fait qu'il sait, je sais que quand maintenant je ferme ma mitzvah, je fais ce que Dieu veut. Et je sais que c'est ce que Dieu demande de moi. Ça, c'est le Saint des Saints. Ça, c'est le petit Beth Amikdash qu'on a en nous. Et ça, c'est un travail. Lorsque les juifs sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas encore ce niveau-là. Ce niveau de se dire, Dieu m'a demandé de faire quelque chose, même si je ne l'ai pas compris, je fais ce que Dieu veut. Ils n'étaient pas à ce niveau-là. C'est pour ça que dès que Dieu leur envoie un premier commandement, ils n'étaient pas en état de le gérer. Mais nous, maintenant, on est en train de le faire au jour le jour. Chaque fois qu'on fait une halakha, qu'on étudie une halakha et qu'on va accomplir une halakha, même si on ne la comprend pas, et encore plus si on ne la comprend pas, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que du fait que tu fais cette halakha, tu habitues ton corps à se dire qui c'est le patron de cette terre? C'est Akadosh Baruch Hu. J'habitue mon corps. Ça veut dire que, par exemple, il y a une halakha qui te dit tu vas te lever le matin, tu vas faire ta tefila, tu vas faire le schéma à l'heure. Mon corps a envie de dormir. Je vais habituer mon corps. Je dis non. On va écouter la volonté d'Hachem. Hachem, il a dit, il faut se lever. On va se lever. Donc, j'habitue mon corps que c'est qui le vrai patron du monde et c'est qui le vrai patron de mon corps. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, j'habitue mon corps. Et ça, c'est un travail progressif. Vous comprenez que lorsque ma chère va venir Bezrat Hachem et qu'on aura derrière plus de 3000 ans, 3300 ans de travail, d'efforts que le Ham Israël ont fait de haut et de bas, d'accord, pendant lesquels, à chaque fois, on a essayé, mais on est tombé. Mais concrètement, quand on réussit, ça veut dire que chaque réussite qu'on a, ça veut dire qu'on dit, j'écoute pas le corps, je vais écouter ce que Dieu va dire. Ben, ça fait que le corps est prêt pour ma chère. Le corps se prépare à ma chère. Donc, vous voyez qu'on n'est pas si lent qu'on croyait. Parce que ça, c'est un des efforts qu'on fait tous les jours, ça. Les efforts de mettre de côté ma volonté pour exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but de l'avènement messianique. Le but de l'avènement messianique, c'est que le corps ne forme plus un frein. À quel moment le corps forme un frein, c'est lorsque le corps a une volonté propre. plus on habitue le corps à ne pas avoir de volonté propre, et plus le corps n'est plus un frein à, n'est plus un frein à Kadosh Baruch Hu. Donc concrètement, maintenant que ma chair n'est pas encore là, tant que ma chair n'est pas encore là, on peut vivre l'avènement messianique aujourd'hui, ici, sur Terre, maintenant, même si ma chair n'est pas là. Comment on peut le faire? Très simple. Chaque fois que mon Yitzhara m'attaque, et que je réussis à faire en sorte que je ne l'écoute pas, et que la volonté que je vais faire, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et pas ma volonté. Mais quelque part, c'est comme si que Mashiach était venu dans mon corps maintenant. Ben oui, parce que c'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est quand mon corps développe ce que Dieu y veut et que mon corps ne forme plus de frein. Je viens de le faire. Malheureusement, on réussit pas sur toute la ligne. On se plante aussi, on se casse la figure. C'est pour ça que Mashiach n'est pas tout le temps là. Mais quand tu prends un tzaddik dans la vertu de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il se plante jamais, donc du coup, pour lui, Mashiach est là. Parce que c'est quoi Mashiach? Le corps est prêt, son corps est prêt.
L'Alaha n'était pas toujours comme Rabbi Shimon Bar Yochai.
Bien sûr, c'est un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un niveau qui est pas si loin qu'on croyait. C'est un niveau qu'on vit au jour le jour. Chaque fois que je vais faire un effort de faire ce que Dieu veut et pas ce que je veux, et que du coup, finalement, ce que je veux va devenir ce que Dieu veut, c'est encore plus fort. C'est-à-dire, c'est même pas que j'annule ma volonté. Au final, ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Donc là, mon corps est complètement prêt à recevoir les instructions divines. Là, quand t'as que je revois ça, il dit maintenant je vois ma chair. Donc c'est pour ça que depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, tout dépend de quoi? Tout dépend de l'étude de la halakha. Parce que ce qu'il y a de particulier dans la halakha, vous savez, les gens quand ils étudient la Gemara, dans la Gemara, tu peux toujours donner ton avis. Parce que bon, si tu es la Gemara, que des fois, souvent quand je ne cours de Gemara, ton élève peut poser une question. Même si moi, j'aurais pas pensé à cette question. Mais la question que l'élève a pensé, c'est, à moins que ce soit une question bête, c'est très certainement une question qu'il y a quelqu'un qui a déjà posée.
Mais c'est fait exprès.
Et c'est fait exprès. Ça veut dire que quand je dis la Gemara, je sens pas que je fais la volonté de Dieu. Je sens comment j'essaye de comprendre la volonté de Dieu, mais ma volonté, mon existence est très présente. J'essaye de comprendre, et je montre des fois que j'ai pas compris, et on fait des contradictions, et on répond, etc. On cherche à comprendre la volonté de Dieu, mais en même temps, ma volonté est très présente. Alors que dans la halakha, y a pas. Dans la halakha, j'étudie le Shulchan Aruch, on me dit, la halakha est comme ça. Je dis, ouais, mais ça me plaît pas. Ben, on n'a rien à faire, ça te plaît pas. Tu le fais quand même, et
tu le fais pas.
Oui, c'est ton problème. Mais la halakha te dit, tu le fais, point barre.
Ouais.
On discute pas. Y a pas à discuter. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que ton corps doit vouloir ce que Dieu veut, point barre. Ça, c'est une particularité qui est dans la halakha, qu'on retrouve dans aucune autre étude. Dans la halakha. Arba amot shel halakha.
Tu parles toujours de la volonté, comme si au singulier, mais Dieu a plusieurs volontés.
Oui, j'ai compris. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant?
Globalement. Ce qu'il attend de toi, c'est pas ce qu'il attend de moi.
Non, j'ai compris.
D'accord.
Imagine-toi par exemple que, j'ai compris, ce que Dieu attend de moi.
Il faut une seule personne sur Terre, vous en avez 5 millions.
Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Quelle est la volonté de Dieu? D'accord? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Dieu a une seule volonté. Dieu a une seule. Non, mais c'est la halakha. Par exemple, si je veux prendre ce chips, d'accord? Et je veux le consommer. Qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant? Il veut qu'avant de le consommer, je fasse une beracha. C'est clair, sans équivoque. Qu'est-ce que moi je veux?
Je veux le consommer.
Moi, je veux le manger. D'accord? Maintenant, si j'arrive à faire en sorte que, quand je prends ce chips dans la main, j'ai envie de faire la bracha, là, on te dit, bingo, t'as gagné. Ma chère est venue pour ça.
J'ai envie de faire la bracha ou je fais la bracha?
Non. J'ai envie de faire la bracha. C'est ma volonté. Je veux faire la bracha. Et finalement, je m'habitue à ce que c'est pas moi le patron, c'est Dieu le patron, et que ce que je veux faire et ce que je vais faire, c'est ce que Dieu veut.
À force de le faire, ça devient un automatisme.
C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention à ne pas confondre automatisme et routine avec instinct. C'est-à-dire qu'à un moment, la halakha, ça devient un instinct. C'est extraordinaire. Ça, vous voyez, quand je fais une halakha, et quand je fais une halakha, et surtout quand je la mets en pratique, et que je fais ce que Dieu veut, et que ma volonté devient ce que Dieu veut, je suis, d'une certaine façon, au même niveau que les Bnei Israël qui ont reçu la Torah, le premier commandement. Parce que c'est ça ce qui les a dérangés. Ce qui les a dérangés, c'est que tout d'un coup, Dieu leur montre sa volonté. Mais ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils avaient leur volonté propre. Donc du coup, quand tu confrontes la volonté humaine avec la volonté divine, ça explose. Mais quand tu t'habitues à mettre de côté ta volonté, afin de devenir une Merkava, un char, qui écoute ce que Dieu dit, dans ce cas-là, mon corps n'est plus un frein, c'est automatique. Tourne à droite, c'est tout.
En réalité, il ne faut pas que la mitzvah te pousse, il faut que ce soit toi qui ailles chercher.
Naturellement, tu as envie de faire ce que Dieu veut. C'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants. Il faut éduquer les enfants, c'est très important ça. Il faut éduquer les enfants. Aujourd'hui, c'est à la mode de tout expliquer, etc. Bon, c'est le nouveau Tménix aujourd'hui. Alors,
Non, mais il n'y a, pas que les enfants qui...
Il faut expliquer aux enfants, non, mais il faut expliquer aux enfants.
Il y a aussi des balais de chouva.
C'est très important. C'est très important d'expliquer aux enfants. Il n'y a pas de question dessus. Il n'y a pas de question. C'est très important d'expliquer aux enfants, qu'ils comprennent ce qu'ils font, etc. Il n'y a pas de question dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, on doit faire juste parce que c'est écrit qu'on doit le faire, c'est tout. Pas comment, quand on commence à dire oui, mais tu comprends, moi je fais ce qui me plaît, je fais pas ce qui me plaît pas, ça marche pas ça. Quand un enfant, tu lui dis viens ici à la table de Shabbat, viens faire ci, cette nuit, si j'ai pas envie, tu lui dis mais ça change rien, tu viens quand même. Il y a pas, j'ai pas envie. Et avec le temps, assez retsono qui ressonnera. Il fera sa volonté comme la volonté qu'a Shabbat. Alors évidemment que c'est pas inné ça. Le Sefer HaKhinuch dit que le plus grand cadeau qu'on peut donner à un enfant, c'est l'aider à travailler sur son caractère. Parce qu'un enfant, naturellement, quand il naît, qu'est-ce qu'il a de plus présent? C'est sa volonté. Je veux manger, je veux dormir, je veux boire, je veux mon bon, il n'y a que je. Dieu, on ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Quand tu l'apprends, tu dis non, mais écoute, tu sais, même si tu veux, mais il y a des choses que Dieu ne veut pas. Il y a des choses que papa ne veut pas, que Dieu ne veut pas, etc. C'est très difficile pour un enfant parce qu'au début, quand il est petit, il s'habitue que ce que je veux, c'est ce que je dois avoir. Et quand on l'habitue à ne pas obtenir ce qu'il veut, on lui rend un très grand service. Parce qu'il s'habitue, on l'habitue au fait que c'est pas forcément ma décision et ma volonté qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu attend de moi. C'est très important, ça. Ça manque beaucoup dans la génération Z. Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup qu'est-ce que l'enfant veut, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est pas prêt. Eh ben, un peu trop tménique dans ce truc-là. Bon, à mon avis. Bon. Tménique, ça veut dire, comment on peut traduire en anglais?
Cinéma.
Hein? Cinéma, voilà, cinéma. Non, c'est pas. Bon.
Hein? La ceinture aussi, elle a fait des ravages.
Bah, je sais pas qui a parlé de ceinture.
Oui,
il y a la volonté.
Faut être pédagogue, tout en étant.
La question n'est pas quelle est la volonté de l'enfant. La question est quel est le rythme de l'enfant. Bien évidemment, faut faire travailler l'enfant à son rythme. Il n'y a pas de question dessus. Mais d'un autre côté, l'enfant doit comprendre. D'ailleurs, on le voit. La Gemara a dit que Yetzer Tinok Veisha, le Yetzer Hara, un enfant et une femme, d'accord? Leolam Tis, Moldocha Vemin Mekarvet. Il faut toujours avoir la gauche qui repousse et la main droite qui rapproche. C'est-à-dire la gauche, bien sûr que l'enfant, tu vas commencer par la tirer, mais concrètement, il faut commencer par la gauche qui repousse. D'abord, les règles. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais remplaçant, j'ai remplacé une classe, et il y a un professeur qui m'a dit que je vais vous donner un grand principe. Quand tu rentres dans la classe, il faut tout de suite être très sévère. Tout de suite. Et après, tu te radoucis. Ce qu'ils font en général les professeurs, ils font le contraire.
Exactement.
D'abord, ils sont là, ils veulent être cool, tu vois. Et après, dès que ça dégénère, tac, ils commencent à crier. Mais ça marche plus, là. Et c'est la même chose qu'on fait avec nos enfants. Au début, tu es cool, etc. Tu dis, je vais être cool, je vais être un père cool. Et après, dès que ça part en vrille, tu vas récupérer et tu vas crier. Mais c'est trop tard. C'est déjà ton pote, le gosse. C'est déjà ton pote. Non, c'est pas ton pote. C'est pas ton pote, c'est ton fils. Mais tu es son père. Donc, il faut pas s'amuser avec ça. Il y a un respect à avoir. Il y a la notion que l'enfant, il doit savoir que même si il a une autre volonté, finalement, la volonté qui prévaudra sera la volonté du père, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Très important. Et c'est ça la halakha. J'aime beaucoup étudier la halakha parce que quand j'apprends la halakha, c'est écrit que étudier la halakha, ça amène Yirat Shamayim, ça amène la crainte de Dieu. Parce que quand tu étudies la halakha, ce qui est écrit, c'est ce que tu dois faire. Que tu sois d'accord ou pas d'accord. Dans tout le reste, tu puisses étudier Gemara, Zohar, Tania, etc. Il y a une place pour ta personne. C'est-à-dire, tu peux ne pas comprendre, ou tu peux comprendre d'une certaine façon. Dans la halakha, il y a très très peu de marge. Il n'y a pratiquement pas de marge. Ce qui est écrit, c'est ce que tu dois faire. C'est tout. Bon,
c'est des règles.
Il y a les règles. Eh bien, les règles, c'est la volonté de Dieu qui passe avant la mienne. Donc, du coup, je deviens un Merkava pour Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, c'est pas si. On croyait que c'était quelque chose qui était que pour les patriarches, mais d'une certaine façon, on le fait tous les jours. Tous les jours, quand on fait des mitzvot. Ouais, on n'est pas si loin que ça. Seulement, il faut s'habituer à essayer de le faire le plus longtemps possible, sur le plus de mitzvot possible. C'est tout. Mais c'est accessible. On le fait tous les jours. C'est même pas quelque chose qu'on doit chercher à obtenir. On le fait déjà. Non, on ne fait pas sur toute la ligne, mais on le fait déjà.
Mais on le fait jamais comme les patriarches, comme les tzadikim.
Bien sûr, les tzadikim vont sur toute la ligne.
Non, non, mais même, peu importe. On parle d'une mitzvah qu'on peut avoir en commun avec un tzadik. Mm-hmm. Voilà. Je dis n'importe quoi. Je sais pas. Mettre les tchilines, par exemple. On le fait jamais comme un tzadik.
Qu'est-ce que c'est? J'ai une question à te poser.
Tu me dis que.
Non, c'est très simple. J'ai une question à te poser.
On doit avoir la conscience que.
C'est quoi la mitzvah de Tefilin?
C'est d'avoir la conscience que.
C'est quoi la mitzvah de Tefilin?
Bah, poser des lanières.
Voilà. Tu as posé des lanières? Tu as fait la mitzvah.
point barre.
D'un point de vue halakhique,
tu vois. Non, mais là, on n'est
pas,
non,
mais pas dans le. Dans, je suis dans l'halakha.
Mais je suis pas dans la merkava.
Mais si, je suis merkava. J'avais pas envie de les mettre, je les ai mis.
Oui, mais il n'y a pas d'accord, de kavana.
Mais là, il n'y a pas de kavana, là.
Et alors ?
C'est nul. Mais c'est nul.
C'est pas nul, non, c'est pas nul. Non,
ça, c'est autre chose.
C'est déjà un niveau. J'avais pas envie de le faire. J'ai fait passer la volonté de Dieu avant ma volonté. Encore plus si je suis arrivé à un niveau que ma volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce matin, j'avais envie de mettre les tefillines. Tu comprends ?
Que tu as envie ou pas, tu n'as pas le choix.
Mais dans la lacha, que j'ai envie ou que j'ai pas envie, je le fais. Point barre.
Oui, d'accord, mais quand on dit qu'on doit être, on doit tendre vers un merkava, c'est impossible pour nous. Enfin, je sais pas, je crois que c'est impossible.
On est bien sûr qu'il y a des missions sur lesquelles on est pseudo merkava, c'est-à-dire que je l'ai fait tellement naturellement et tellement de façon instinctive que je l'ai fait automatiquement. Je te donne un exemple. Quelqu'un il vient par exemple pour te demander la tzedaka. Tu vois quelqu'un dans la rue te demande la tzedaka. D'accord. Le Ham Israël, on a une nature de gomelé chassadim. On a une nature de gomelé chassadim, c'est-à-dire de miséricordieux. Au point que la Gemara a dit que celui qui n'est pas comme ça, hein, il faut se poser des questions s'il est juif. D'accord ? C'est comme ça c'est écrit. Et donc, non, on en a parlé, mon père, on en a parlé. D'accord ? C'est-à-dire qu'au point que celui qui ne le fait pas, il faut se poser des questions s'il est juif. Alors, justement, quand tu as une personne qui est là, qui te demande la tzaka, instinctivement tu lui donnes. Est-ce que tu as besoin de. Alors, ça dépend des fois, ça dépend des sommes, ça dépend beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as besoin de dire je le fais contre ma volonté ? Non, c'est que j'ai envie d'aider.
Non, mais ça me sert.
Pourtant, c'est mon argent. Non, mais... Pourquoi tu veux que je lui donne ? Pourquoi tu donnes mon argent ? Je le connais pas, il est pas de ma famille, je le connais même pas.
Mais ce que je veux dire, c'est que.
Pourquoi tu lui donnes ?
Même si tu donnes, des fois, tu as une main invisible qui te dit, mais je peux pas lui donner.
J'ai compris.
Alors que dans le cas.
Ce que je veux dire, c'est qu'il peut arriver parfois, en tout cas, pour la tzedaka, que je sens que instinctivement, j'ai envie de donner. Ouais. Là, c'est très bon. Ça veut dire que la volonté de Dieu est passée avant ma volonté. Et que pas seulement ça. Ma volonté est devenue la volonté de Dieu. Parce que normalement, ma volonté aurait dû être « Tu as des sous, garde-les. » Un enfant, c'est ce qu'il aurait dit. « J'ai des sous, je les garde, pourquoi tu veux que je les donne ?» Quand je me suis habitué à que, instinctivement, lorsque je vois un pauvre, je lui donne la tzedaka, et il n'y a même pas de guerre, c'est automatique, je veux le faire, mais bravo, ma chair est venue pour la tzedaka. Mon corps ne forme plus un frein à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et progressivement, on le devient petit à petit. On le devient. C'est-à-dire qu'on amène ma chair dans notre vie. Vous savez que le Zohar dit qu'on a tous, au fond de nous, un petit Mashiach. Un petit Mashiach. C'est un grand chidouche.
C'est une écoute d'Atayoudi, ça.
Oui, c'est le petit Mashiach qui est en nous. Voilà, je fais une mise up, pack, Mashiach. Un scoop, ça, hein, j'ai dit. Le Messie est en nous. Vous allez rentrer à la maison, ce soir, vous allez dire à votre femme, on a appris ce soir au cours que je suis Mashiach.
Elle va mourir, elle me dire oui.
Elle aussi, je suis le Messie. Elle va m'enfermer.
Ouais. Mais si, mais si. Alors.
Voilà. Il y avait le Beit HaMikdash.
Oui.
Donc, à Kadosh Baruch Hu, il n'avait pas seulement les 4 modes de la halakha, il avait aussi
le Beit HaMikdash.
Donc, quelqu'un qui allait au Beit HaMikdash et qui ne faisait pas la halakha, qui ne faisait pas, qui ne pratiquait pas, il avait la même, entre guillemets, sensation que quelqu'un qui est un grand pratiquant à notre époque.
Ah ben non, pas du tout.
Pourtant, il côtoyait Dieu.
Non.
De la même façon que nous, on le côtoie quand on est dans la halakha.
Le sentiment qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'est qu'on est à un niveau dans lequel la volonté de Dieu prévaut sur ma volonté.
Mais, c'est-à-dire que, oui.
C'est tout.
Mais on ressentait quelque chose de ce parti.
Certainement, mais c'est pas ça, c'est pas ça, Mashiach. Mashiach, c'est lorsque ma volonté devient la volonté de Dieu. Ça, il y avait au Kodesh HaKodashim. Et à part le Kodesh HaKodashim, on retrouve ça dans la halakha aujourd'hui.
Comment tu peux dire qu'au Kodesh HaKodashim, ma volonté, celle de Dieu ? Le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit.
Ça veut dire que le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit dans lequel ce que Dieu veut, c'est ce qui se passe. Et pas ce que moi je veux.
Il n'y a que de la volonté divine.
Il n'y a que la volonté divine. Et c'est pour ça que c'est un endroit très kadosh. Aujourd'hui, on n'a pas à ce niveau-là, il est caché. Mais on a ça un petit peu dans la halakha. Si vous voulez, en d'autres termes, la halakha, c'est le Kodesh HaKodashim de la Torah.
Pourquoi on parle de Arba Amot ?
Ah, très bonne question. Après, on parle de Arba Amot, 4 coudées. 4 coudées, c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin. Les quatre coudées dans la halakha, hein, c'est le domaine d'un homme. C'est-à-dire que chacun de nous, quand il marche, même si tu marches là pendant Shabbat, même maintenant, tu as tes 4 coudées autour de toi, c'est ton périmètre. Arba Amot chez la halakha, si tu veux, c'est le périmètre de la halakha qui est autour de toi. C'est-à-dire toute la halakha qui te correspond, qui te concerne.
Elles sont à proximité.
D'accord ? Toute la halakha à proximité. Ça veut dire, il y a des situations qui se présentent devant moi. Et Dieu veut que je fasse certaines choses, moi j'ai pas envie de les faire. Et si je m'efforce à faire ce que Dieu veut, et encore plus faire en sorte que ce que je veux, ce que Dieu veut, celui que tu as gagné, Arba Amot Shel Halacha. Ça, c'est le saint dessin de la Torah. Donc on y est. Eh, on n'est pas loin du tout. On y est.
C'est une façon de dire que tu approches de toi la Halacha. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut le.
Non, c'est une façon de dire que j'applique la Halacha, j'applique la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Je l'applique et je fais passer ça avant ma volonté. C'est ce que veut dire la Ramat Shalakha. Donc, c'est quoi la Halakha ? Hu Retsono Itbarech Vechokhmato. La Halakha, c'est la volonté de Dieu et sa sagesse. Amloubashim Be'alachot Aruchot Lefanenu qui sont habillés dans les Halakha qui sont présentés devant nous. C'est-à-dire, finalement, c'est très important ce qu'il dit ici. Quand, par exemple, on te dit que les téfilines, tu dois les mettre sur le bras gauche pour un droitier et pas sur le bras droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que je mette les téfilines sur le bras gauche. C'est Dieu qui veut. C'est pas qu'il y a un lit qui s'appelle Shulchan Aruch. Le but de ce lit qui s'appelle Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est de te dire, Dieu attend de toi, Mendia Souline, que tu mettes les téfilines sur le bras gauche. Ça veut dire que le Shulchan Aruch est un livre qui m'aide à savoir ce que Dieu attend de moi maintenant. Qui dit ici.
C'est la loi.
C'est la loi. Mais c'est pas seulement la loi. Alors, c'est pas seulement des règles que Dieu a fait. C'est la volonté de Dieu.
Oui.
Et il y a un mode d'emploi dans lequel Dieu te dit, voilà ce que je veux maintenant. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, est-ce qu'une volonté doit s'expliquer? Pas forcément. On avait donné souvent l'exemple d'une femme enceinte qui est là à 4 heures du matin, qui dit à son mari, qui lui dit, je veux
une banane des noyautés.
Hein, hein, je veux un melon. Voilà. D'accord? Je veux un melon en décembre. Bon, je dis, écoute, je peux te donner 1000 euros si tu veux. Non, non, non. Elle prend les 1000 euros, mais je veux un melon.
C'est enregistré, tout ça?
Je veux un melon. Je veux. Mais tu dis, mais pourquoi? Mais pas pourquoi. Je veux. Une volonté ne s'explique pas. Il y a des volontés qui s'expliquent. Mais c'est expliqué en chassidut que si la volonté s'explique, c'est que c'est plus une volonté. Quelque chose qui s'explique, ça veut dire déjà qu'il a une raison. Donc je le fais pas pour la volonté, je le fais pas parce que je veux, je le fais parce que j'ai compris que je dois le faire. Une vraie volonté, c'est quelque chose que je fais parce que je veux, c'est tout. Comme ça. Il n'y a pas de raison.
C'est le roi.
C'est
le roi.
Le roi. La même chose. Quand tu fais la halakha, mais pourquoi Dieu m'a demandé de mettre les tefillines? Il y a un niveau dans la halakha dans lequel il n'y a pas pourquoi. Tu fais, c'est tout. Point barre. Quand tu es dans la gemara, tu rentres dans les raisons, là tu dis bon, peut-être qu'il voulait ça, peut-être qu'il voulait ça, peut-être qu'il voulait ça. Laisse tomber. Ça laisse ça pour les cours. Mais quand tu fais une mitzvah, je le fais parce que Kadosh Baruch Hu a demandé, point barre, peu importe ce que j'en pense. Peu importe ce que j'en pense. Combien d'histoires on a eu dans la Gemara comme ça, de gens, de chamim, qui étaient en désaccord avec la majorité. Et la majorité leur a imposé, très fréquent, on a vu ça récemment dans la Gemara, et la majorité leur a imposé, leur a dit, tu dois faire comme nous. Et des fois c'était très très difficile, des géants. D'accord, des géants, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar, des géants dans la Gemara. Et ils n'arrivaient pas. Des fois, ils n'arrivaient pas. Des fois, parce que comment tu peux faire quelque chose qui est contre tes convictions? Moi, je suis convaincu que tous mes amis se plantent. Et pourtant, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la volonté d'Hachem? C'est que je fasse comme mes amis disent, parce qu'ils sont majoritaires. C'est fou. Ça veut dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est faire ce que Dieu veut, pas ce que j'ai compris ou ce que j'aurais aimé que Dieu veuille. C'est très difficile. Ça, c'est la halakha. Et c'est pour ça que quand on fait la halakha, hein, vous savez que ceux qui tranchent, surtout ceux qui vont trancher la halakha, hein, aujourd'hui, nous, on va lire Shulchan Aruch, dans lequel tout est écrit, mais il y a des rabbanim de très haut niveau qui vont trancher la halakha, c'est-à-dire qu'ils vont parler de cas qui ne sont pas écrits. Ils ont des yeratson, en tout cas des tfilates qui font, dans lesquels ils demandent à Kadosh Baruch Hu de réussir à être mekaven. Ça veut dire à... Non, pas
pas
recevoir.
C'est conscient...
De réussir à correspondre à ce que Dieu veut. Parce que finalement, lorsque le juge va donner son psak, les gens vont dire, ah, c'est la vie de tel juge. Mais non, c'est pas la vie de tel juge. Le juge est en train de dire, voilà ce que Dieu veut. Mais qui est le juge pour pouvoir dire ça?
Comment on sait que le juge, il a compris?
D'accord.
Comment on sait que ce juge, il a compris?
Parce qu'il est décisionnaire. Je parle d'un décisionnaire. Je parle d'un grand Torah. Moi, je dois suivre mon dirigeant.
Un badge.
D'accord? Moi, je dois suivre mon dirigeant. Il y a d'autres juifs qui ont d'autres dirigeants. C'est pas un problème. La volonté de Dieu maintenant, c'est que je suive mon dirigeant. Peu importe ce que les autres dirigeants pensent. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Et c'est très difficile pour le rab, parce que qui dit que le rab va dire ce que Dieu pense? Peut-être qu'il va dire ce que lui pense. Ça veut dire que quand un rav va donner un psak halakha, il va trancher une halakha, il doit mettre de côté complètement ses intérêts. Il doit mettre de côté complètement sa volonté, son moi. Qu'est-ce qui doit l'intéresser à ce moment-là? C'est qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Est-ce que Dieu veut que je dise blanc ou Dieu veut que je dise noir? C'est très difficile. C'est pour ça que des fois il y a des rabbinim, j'ai assisté plusieurs fois à des cas dans lesquels des fois ils posent une question à un rav, des questions qui sont pas écrites dans le Shulchan Aruch, et le rav prend du temps à te répondre. Il prend plusieurs jours. Tu vois qu'il n'arrive pas à trancher. Pourtant, je veux dire, le doute est là. Et il n'a pas eu de nouvelles informations pendant les. Je lui dis, mais Rav, quelle information vous avez eu? Vous n'avez pas eu d'informations supplémentaires depuis 3 jours. Pourquoi vous ne répondez pas tout de suite? Il dit, j'arrivais pas à trancher. Parce que c'est très difficile. Il faut réussir à mettre de côté tous ses intérêts et de dire ce que je tranche maintenant, ce que Dieu veut. C'est très difficile. C'est très difficile. Et des fois, le Rav, il sent qu'il n'arrive pas. Il n'est pas là. Dans ce cas-là, il tranche pas. Ça veut dire que dans la halakha, on a une proximité avec Akadosh Baruch qui est extraordinaire et qui est unique. On a une abnégation à Kadosh Baruch Hu qu'on trouve nulle part ailleurs. Ça, c'est équivalent au sein des saints, donc du Beit HaMikdash chez les Arba Amot Shel
Halacha. Et la volonté du Dieu n'est pas que la halacha. Par exemple, j'ai le choix entre partir en Israël ou aller aux États-Unis. Dieu, il sait, il a une volonté pour
ça,
moi.
Ça, c'est pas une halacha, ça.
Parce qu'il a aussi une volonté de Dieu pour moi.
Oui, mais il n'y a pas de mitzvah.
Mais est-ce qu'il a une volonté?
Il n'y a pas de mitzvah ni de partir en Israël, ni de partir aux États-Unis.
Il a une volonté quand même.
Oui.
Du coup, comment je fais pour ça? Pour
s'il y avait une mitzvah de partir en Israël, ou bien une avéra de partir aux États-Unis, là on aurait dit la volonté de Dieu est claire. Tu dis par exemple, j'ai le choix entre partir en Israël ou partir à Ibiza, évidemment, je veux dire, Dieu ne veut pas que tu ailles à Ibiza, tu veux que tu ailles en Israël.
Là c'est un choix qui est tous les deux cachés.
Voilà.
Deux choix cachés. Mais Dieu a quand même une volonté. Pour moi, il a décidé pour moi, tu vas à tel endroit.
Oui, mais j'ai compris. Mais là,
mais c'est ce que je veux dire. Les gens, ils vont interroger le Rav, même pour ce genre de questions qui ne sont pas là.
Bien sûr. Parce que, étant donné qu'ils font confiance au Rav et qu'ils savent que le Rav est un, que le Rav est un moyen, est un véhicule pour transmettre la volonté de Dieu, donc on est confiant que le Gadol, le Rav, le Tzadik, le Rabbi,
ce qu'il va dire,
d'accord, ce qu'il va dire, c'est ce que Dieu veut maintenant de moi. C'est pas ce que lui il veut. Ça veut dire que des fois on va aller voir un tzaddik. Il y a des gens qui vont voir un tzaddik qui vont demander un conseil. Bon, un conseil. Bon, c'est un homme intelligent qui est, etc. Un conseil.
Ça arrive très souvent.
D'accord. Mais en vérité, c'est beaucoup plus fort que ça quand on va voir un rabbi. C'est pas un conseil qu'on demande. C'est une vision. C'est une vision. Ouais. Je veux qu'il tranche. Je veux qu'il me dise.
Qu'il tranche à ma place.
En côté une anecdote. Une fois, il y a un juif qui voulait se lancer dans une affaire. C'était cette semaine, c'était la Hiloula du rabbi. C'était l'anniversaire du rabbi Rachab. Une fois, il y a un chassid du Rabbi Rachel qui est venu le voir, voulait s'en dans une grosse affaire. Une affaire pour laquelle il devait vendre toutes ses autres petites affaires pour investir dans celle-là. Avec du bois, etc. Bon, une grosse affaire. Il y avait des risques, mais c'était une affaire prometteuse. Il a demandé au Rabbi. Le Rabbi Rachel lui a dit, ne te lance pas dans cette affaire. Alors, il avait les associés, ils lui ont dit, mais t'es malade, t'es fou, c'est l'affaire du siècle, etc. Comment tu fais pas ça, etc. Et bon, il n'en pouvait plus, il est reparti demander au Rabbi. Le Rabbi lui dit, écoute, je t'ai déjà dit, parce que tu aurais demandé une deuxième fois. Écoutez, Rabbi, essayez de revoir, tu vois, les armes, il n'a pas vu. Je t'ai déjà dit, pour moi, cette affaire, ne la fais pas.
D'accord.
Et comme ça, une troisième fois, il va redemander, parce que les associés, il dit, mais non, certainement ton Rabbi, il n'est pas au courant. C'est l'affaire du siècle, ça. Tu deviens milliardaire, tu vas faire des yeshivot à ton rabbi, et il va essayer de l'acheter avec ça, tu vois. Donc il va chez Rabbi, il dit, Rabbi, vous savez, on va construire des très belles yeshivot, etc. Rabbi dit, écoute, tu peux me raconter ce que tu veux. Tu peux me raconter ce que tu veux. Moi, je t'ai déjà dit que d'après moi, il ne faut pas lancer cette affaire. Malheureusement, le chassid n'a pas tenu. Et bon, à la fin, il n'a pas demandé, il a fait l'affaire. Et il a tout perdu. Évidemment. Au début, ça marchait bien, ça marchait, c'était du feu. Et malheureusement, quelques semaines après, il a tout perdu. Alors après, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait un chassid quand il déprime? Il va voir son rabbi. Il va voir le rabbi. Il dit, bon, rabbi... voilà, j'ai dépensé. D'accord? Alors il lui dit, le rabbi, je t'explique quelque chose. Il dit, tu sais, les gens, quand ils viennent me demander des questions, il y a plusieurs types de gens qui viennent me demander des questions. Il y a des gens qui me posent une question parce qu'ils se disent, comme le rav est une personne qui a beaucoup d'expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent lui raconter les problèmes. Donc avec l'expérience qu'il a, certainement qu'il pourra m'aider. Bon. Il y a d'autres personnes qui pensent, ils disent, comme le Rav, il a beaucoup étudié en Torah, et que dans la Torah, on trouve beaucoup de chorma, donc certainement que la chorma de la Torah va l'aider à m'aider dans mon problème. Il y a encore d'autres personnes qui pensent encore plus haut, qui disent, comme le Rav, il voit les choses, le Rabbi voit les choses dans les sphères célestes, alors il va me dire ce que je dois faire maintenant. Il dit, dans ton cas, les trois réponses étaient bonnes. Ça veut dire que, et par rapport aux exemples d'affaires similaires que les gens sont venus me demander, je savais que l'affaire n'était pas bonne pour toi. Et par rapport à ce qui est écrit dans la Torah, je savais que l'affaire n'était pas bonne pour toi. et par rapport aux sphères célestes, je savais que les sphères n'étaient pas pour toi. Trois fois tu m'as demandé, trois fois je t'ai dit non. Tu as plongé. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon. Alors, Racine. Je t'en prie. Alors, Racine, il a compris le message. C'est ça, un rabbi. Hein, on va pas voir un rabbi seulement parce que c'est une personne qui a véhiculé beaucoup d'informations ou c'est une personne qui a étudié la Torah. C'est plus que ça. Un rabbi, c'est une personne que tu sais qui voit les choses en haut et que ce qu'il te dit, c'est ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Que je sois d'accord ou que je sois pas d'accord. Combien d'exemples on a eu avec le rabbi? Et ça, c'est même très très dur. Des gens qui posent une question au rabbi. Bon. Le rabbi répond. Après, il repose la question une deuxième fois. La première fois, le rabbi a dit non, ne le faites pas. Et ça arrivait plus en fait que notre rabbi, que la deuxième fois, le rabbi dit vous pouvez le faire. Il y a un principe qu'on ne redemande pas une deuxième fois à un tzaddik. Du style, non, mais j'ai oublié de vous dire que. Je crois qu'elle avait oublié ce que vous voulez dire.
Il n'a pas été complet.
Soit t'as. C'est-à-dire, ce qu'il t'a dit, ce que tu dois faire.
Ça, c'est pas concernant la lacha, ça.
Non, pas la lacha, ça. Bien sûr. Mais je parle par rapport à un tzaddik. Et bon, tu veux redemander, alors tu veux une réponse qui te plaise. On va te donner une réponse qui te plaise. Si tu veux le faire, vas-y, fais-le.
C'est ça. Est-ce que c'est ce qu'on
veut? Ça veut dire, la question, c'est quand je vais voir le Rav, est-ce que je vais voir, est-ce que j'ai envie d'entendre ce que je vais entendre, ou est-ce que j'ai envie d'entendre ce que je dois faire? Très difficile. Il y a même des gens, des fois, qui ont plusieurs rabbinim. Et ils appellent le Rav correspond. Hein, bien sûr. C'est une catastrophe.
La question qu'on peut se poser, par contre, c'est est-ce qu'il vaut mieux, quand tu sais que tu vas pas forcément écouter ce que le Rav te dit, il vaut mieux de pas y aller du tout.
Mais moi, je donne un exemple. Des fois, ils me disent oui, je sais que vous, chez Rabat, vous permettez, alors c'est pour ça que je suis venu te poser la question à toi. Je lui dis mais non, tu vas voir la personne à qui tu demandes les questions en général. Ouais, bah oui, parce qu'il n'y a pas de poids de mesure. C'est pas seulement trop facile, c'est que ça marche pas comme ça. Il faut pas que j'aille chez le Rav pour entendre ce qui me plaise.
C'est ça le plus gros du
coup. C'est très difficile. Je vais pas chez un docteur ou chez un psy pour qu'il me dise ce que j'ai envie d'entendre.
C'est pas la peine.
Je vais pour qu'il me dise ce que j'ai pas envie d'entendre. Ce que je dois entendre mais que j'ai pas envie d'entendre. Une fois il y a une personne qui m'a dit c'est quoi la différence entre un commerçant et un rabbin? Quelle est la différence entre un commerçant et un rabbin? C'est très simple. C'est que le commerçant, il te vend ce que tu veux, mais que tu n'as pas besoin. Alors que le rabbin, hein, il te vend ce que tu veux pas, mais que tu as besoin. Tout est là. Quand tu vas chez un tzadik, quand tu vas chez un rav, et que tu veux entendre ce que tu veux, bon, va chez un commerçant pour ça. Va chez un charlatan, va pas chez un rav. Un rav, il te dit ce que tu as besoin, pas ce que tu veux entendre. Voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, on va terminer là. Bon, voilà, c'est déjà l'heure. Ce qu'on a montré en tout cas, c'est que on le vit au jour le jour, la halakha, c'est notre façon de faire la merkava d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça on l'a vu très clairement, de montrer que la volonté d'Akadosh Baruch Hu passe avant ma volonté. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera un cours sur Pesach. Je suis pas sûr d'être là, je serai peut-être à New York, je sais pas encore. Mais si je suis là, de toute façon, je t'envoie au courant par SMS. Si je suis là, on fera Bezrat Hashem un cours sur Pessah, sur la Gada. Enfin, j'ai pas encore vu, mais.
Est-ce qu'avoir une volonté, c'est pas réducteur?
C'est
pas réducteur. Vouloir réduire, c'est pas réducteur.
Au contraire. La volonté, c'est ce qu'il y a de plus élevé chez un homme.
Non, je parle par rapport à Kadosh Baruch
Hu. Non, mais si on considère que c'est
que toutes les mitzvot que Dieu nous a données, c'est pour nous donner du salaire à nous. Dieu, il n'en a pas besoin.
Oui.
Il n'a pas cette volonté.
C'est ça la question. Oui, mais le problème, c'est que une volonté, c'est quelque chose qui ne s'explique pas par une raison logique.
Pas un problème de communication. Mais comment on peut dire que Dieu a une volonté?
C'est une image, la volonté.
Il n'a rien besoin.
Quand je dis le terme volonté, ça veut dire quelque chose que je veux faire sans raison. Ça veut dire qu'au final, la raison pour laquelle Dieu veut que je fasse une mitzvah, on peut trouver des raisons, mais c'est pas la raison ultime. La raison ultime, c'est qu'il veut, point barre. C'est ce que je dois me dire.
Ça, c'est ma façon à moi de faire ma mitzvah.
Oui.
Maintenant, comment je comprends Dieu lui-même?
J'en sais rien, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre.
Et comme c'est quoi? C'est un truc de Re'ar Nihuar, Nachat Ruar.
Nachat Ruar, Fanaïcha, Marti, Vena,
Seretoni. Ouais, mais c'est. Il s'en fout.
Quel plaisir d'Hachem, c'est qu'il a dit qu'on a fait ce qu'il veut.
Et si j'avais pas fait, il aurait été triste.
Non, il a pas dit qu'il est triste.
Non, mais en soi, il nous a créé, non?
C'est le plaisir que ce qu'il m'a demandé, je fais. Sans raison.